Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec Eva Bétan de France Inter, Michel Simon de Positif, Jean-Marc Lalanne des Arts Incorruptibles et Eric Neuhoff du Figaro. On parle ce soir des films de Guy Ritchie, Michel Hazanavicius, Stéphane Demoustier, Eric Lartigot, Atik Raimi, Manele Labidi, ainsi que du documentaire La Cravate d'Étienne Chailloux et Mathias Théry. Dans le courrier de la semaine, il vient de recevoir l'Oscar du meilleur scénario. Les critiques du Masque et la Plume l'ont un peu trié, mais je les ai connus plus méchants. Mais voilà, nos auditeurs l'adorent. C'est Jojo Rabbit de Taika Waititi. Virginie, qui habite Lyon, a beaucoup aimé ce film léger, drôle, triste, rythmé et très bien joué. Monsieur et Madame Bouvier sont clairs. Nous sommes allés voir Jojo Rabbit et nous avons tous les deux été émus aux larmes. Nous avons ri, nous avons réfléchi, nous avons rêvé. Bref, tout ce que l'on peut attendre d'un film de grand cinéma. Claude Lézère de Bron, j'ai ri sans honte des nazis caricaturaux, de même que les scènes entre Jojo et sa mère ou avec les réfugiés m'ont ému. Pas si facile de passer élégamment du grotesque hilar au dramatique sensible. Pour Mathieu Dahan, ce film combine la satire à la Mel Brooks, le conte initiatique et la fable didactique. Jojo Rabbit explique l'antisémitisme aux enfants tout en raillant le nazisme de façon débonnaire. C'est beaucoup et par les temps qui courent, nous dit cet auditeur, ce n'est pas de trop pour Ophélie. L'antisémitisme est toujours d'actualité et il n'y a pas que les enfants à qui on doit rappeler l'histoire. David Ronan salue un film dédié en priorité aux enfants plutôt qu'aux intellos bobos français. Là, je pense qu'on est un peu visé. Madame Danielle Dobler prend la plume pour nous exprimer sa tristesse et son profond désaccord avec le masque. Je suis prof d'allemand en retraite et je connais très bien le sujet. J'ai consacré beaucoup de temps et de passion à démontrer pour mes élèves le mécanisme de la montée au pouvoir d'Hitler et le phénomène de fanatisation. Ce n'est pas une farce médiocrement bâclée, c'est un film juste. Pour Sylvain, Waititi attaque par le rire les codes nazis et en rappelle ainsi la nature profondément ridicule, avec une scène finale splendide où la poésie d'une simple danse triomphe de l'absurdité de la haine. Pour Marie Tariol, le film a le mérite de se placer du point de vue d'un enfant qui a grandi dans un régime totalitaire. Encore Françoise Mella, j'en ai beaucoup d'autres, hein, qui parlent d'un joli film touchant et très bien interprété, pas d'un film abscon, pondu, là, ça je crois que c'est encore pour nous, par un sombre cinéaste tchéco-abyssinien qui vous aurait sans doute enthousiasmé. En revanche, Thomas Aranias est d'accord avec les critiques du masque. Le film souffre de son incapacité à lier des genres différents, farce, conte, mélo. Quant à donner à voir le film à des enfants, je ne me risquerai pas. Ou encore Chris Pellier qui nous dit « ça manque de naturel, tout ça, tout est trop calculé ». Waititi cherche à imiter le cinéma de Wes Anderson. Il en utilise trop les codes narratifs et les codes visuels. Arnaud Sanquer parle d'une petite comédie familiale plus transgressive sur le papier qu'à l'écran. Julie Franceschi de Paris est fan absolue de Wes Anderson et très en colère, pas contre vous, mais contre l'auditeur du théâtre qui est intervenu, qui a osé comparer Jojo Rabbit à Wes Anderson, extrêmement énervé quand j'ai vu que Waititi a tenté de s'élever au niveau de Wes Anderson en reprenant des mises en scène flagrantes, notamment la dernière empruntée à Moonrise Kingdom. Enfin, Léon Costa nous écrit « Cher Masque, merci beaucoup de m'avoir envoyé voir Cuban Network d'Olivier Assayas, film prenant, acteur géniaux. En revanche, je souhaite divorcer avec Camille Nevers pour m'avoir donné envie de voir, elle avait défendu le film ce soir-là, Jojo Rabbit, outre que c'est nullissime, nous dit Léon Costa, ce n'est ni scandaleux ni provocateur, c'est juste nul à chier. Et vive le masque et la plume. Voilà, des réactions sur ce courrier, finalement un peu partagées sur non, rien à ajouter.
Bah, je vais aller voir le film, du coup.
Et on commence avec ce gentleman de Guy Ritchie qui, après un Aladdin vraiment très impersonnel, renoue avec ses premières amours, je dirais même ses premiers films, Je pense à Arnaque, Crime et Botanique et à Tubrac ou Turac. Et là, c'est avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, mais aussi Hugh Grant en journaliste People. Et Colin Farrell et McConaughey, c'est Mickey Pearson, un Américain devenu baron de la drogue à Londres, qui pense se retirer des affaires et vendre son business à des Américains. Et c'est le début d'une suite de chantage complot que je ne vais pas résumer. Trahison, enlèvement et bien sûr autant d'arnaques. C'est vraiment le film d'arnaqueur type. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Eva ?
Les films d'arnaqueur, c'est formidable quand le spectateur lui-même est arnaqué. Quand David Mamet fait un film d'arnaque, c'est formidable parce qu'il nous arnaque nous-mêmes. Là, il nous met dans un processus où on voit un arnaqueur qui développe ses ficelles, donc on raconte le film. Il y a le début qui peut être amusant, de voir Hugh Grant en faire des caisses, de voir la distribution, de voir le côté entouillé des disant des gros mots. Et ça s'évent très vite parce qu'au bout d'un moment, ça tourne à vide et on s'ennuie pas mal beaucoup, même très beaucoup.
1h50.
Je dirais. C'est le plaisir ou l'intérêt dure quelques minutes, le temps qu'on voit le dispositif, qu'on voit le jeu que les gens font avec le genre, et puis ça s'arrête. C'est un peu un film pour rien. Il y a un petit arrière-goût, même assez désagréable.
Michel ?
Oui, je suis un peu d'accord. Je pense que c'est un peu la quintessence de ce que le cinéma britannique possède et qui le rend antipathique à beaucoup de critiques. C'est-à-dire, c'est un cinéma très cérébral, finalement, avec une mise en abîme, puisqu'ils écrivent un scénario tout en regardant le film. Mais c'est aussi les qualités du cinéma anglais, c'est-à-dire d'abord des comédiens absolument formidables, ils sont tous vraiment brillants, une intelligence en action, et en même temps, je suis d'accord avec Eva, c'est-à-dire ça perd son intérêt au fur et à mesure qu'on continue. Et c'est très bavard, c'est extrêmement bavard. Mais le côté faux-monnayeur, le côté...
Vous n'avez pas l'impression qu'on l'a...
Intrigue en abîme, je trouve ça assez déduisant, mais il y a tellement mieux dans le genre auparavant,
on a... Et surtout, on a l'impression qu'on l'a déjà vu, quoi.
C'est ça, c'est ce que je dis. Il y a tellement de bons films sur ce type de récit que c'est un peu éventé, ça fait très un cinéma un peu dépassé.
Éric ?
Comme on dit, c'est une pinte de bon sens, ce film. C'est vrai qu'on l'a déjà vu souvent, mais c'est un petit malin, Guy Ritchie. Il sait très bien faire ce genre de film. D'ailleurs, il l'a déjà fait. Mais on voit tellement le plaisir qu'ont tous ces acteurs à jouer ce film bavard, certes, mais il est très écrit. Et ça, c'est un bonheur pour l'oreille. Et toutes ces arnaques qui sont vraiment à tiroir, avec des acteurs qui ont l'air de rigoler. Et c'est bourré de clins d'œil, en plus. Hugh Grant qui joue une espèce de fouille-merde pour les tabloïds, quand on sait ce qui lui est arrivé, qu'il a été une grande victime de cette presse-là et qu'il a gagné un procès quand il les a attaqués, on voit la jubilation qu'il a. Colin Farrell est vraiment épatant en entraîneur de boxe. Et l'idée même de... Matthew McConaughey, qui est un Américain qui a fait ses études à Oxford, où il a commencé à devenir un dealer de marijuana et qui est devenu le baron de la drogue, c'est quand même un peu l'inverse de Guy Ritchie.
Pour toi, en fait, il faut le voir au second degré, finalement.
Mais oui, complètement, mais ça a tout pour devenir un film culte qu'on verra le samedi soir. Si, comme les Tontons Flingueurs version Fish and Chips, peut-être que dans 20 ans, on reverra ça comme on regarde aujourd'hui le Lautner.
Jean-Marc.
Je trouve ça mais vraiment effroyable. Pour moi, c'est vraiment 2 heures de cauchemar. C'est quand même un film d'arnaqueur, mais d'arnaqueur extrêmement médiocre. C'est-à-dire que la dramaturgie est uniquement scandée par des fausses pistes. C'est-à-dire qu'il nous induit volontairement en erreur pour nous dire que finalement, il a été plus malin que nous, mais pas, sauf qu'il nous avait masqué une information. Donc je trouve ça extrêmement médiocre comme procédé. Les acteurs sont des acteurs brillants, mais au service de personnages tous plus veulent les uns que les autres. Et ce qui est très désagréable, c'est qu'à la fois, le regard du cinéaste est extrêmement en surplomb, c'est-à-dire qu'il les filme comme des débiles et il incite le spectateur à se moquer d'eux. Et en même temps, il nous fait jouir de leur valerie et de leur bêtise en nous contraignant à rire de blagues racistes, vraiment extrêmement pourries. Je trouve le film détestable d'un bout à l'autre.
Ah oui, t'es vraiment en colère, toi.
Ah oui, en colère. C'est vraiment le mot. Ouais.
Je voudrais juste dire que je me suis endormie au milieu la première fois que je l'ai vu, donc je suis retournée le voir.
Mais c'est pour ça que
quand
moi,
même
j'ai
du mérite
moi j'ai du mal, je dois l'avouer, comme toi, à être en colère, comme Jean-Marc, parce que je me suis aussi passablement endormie. Voilà, hashtag je suis là, d'Éric Lartigot, le réalisateur de votre chère famille Bélier, avec Alain Chabat, Donna Bay, Blanche Gardin, Alain Chabat, c'est le roi, vous le savez, du Burger Quiz, qui est ici Stéphane, chef cuisinier au Pays Basque, dans le restaurant qu'il a hérité de son père. Il est divorcé, il a deux grands-fils, et entre deux cuissons, il surfe sur la toile, comme le fait souvent Eric, et il fait la connaissance sur Insta de Soo, qui est une Sud-Coréenne de 35 ans. Il abandonne ses casseroles, il part pour Séoul, plus précisément pour l'incroyable sidérant aéroport futuriste d'Incheon, qui est un monde en soi et où, faute de trouver Soo à son arrivée, Chabat traîne pendant des jours et des jours une mélancolie qui devient assez touchante tout en faisant des photos qu'il poste sur Insta. Hashtag vous aimez ou pas, Jean-Marc?
Je peux pas dire que j'aime, mais je trouve le film plus curieux que je ne pensais, plus étrange, plus étonnant. Je pensais que ça serait une
comédie. En tout cas, plus étrange que La famille Bélier.
Oui, oui, beaucoup plus bizarre. Déjà parce qu'il y a trois films, c'est-à-dire qu'il y a vraiment trois moments très très différents. Le film est très hétérogène. La première partie, qui est la partie basque, me semble assez conventionnelle et pas très intéressante. Le milieu du film, tout à coup, on est dans Lost in Translation de Sofia Coppola. C'est un film totalement enfermé dans un seul lieu, avec un personnage, donc c'est pas Bill Murray, c'est Alain Chabat, qui à mon avis est une des limites du film. C'est-à-dire qu'il est quand même plutôt moins passionnant à regarder comme acteur que Bill Murray. Mmh. Mais malgré tout, ce moment vraiment où le personnage s'isole du monde, est dans une forme de déni et ne communique que par Instagram, c'est assez étonnant. Et puis surtout, ce qu'on pensait être une comédie romantique entre deux personnes issues de communautés très différentes, basque et coréenne, finalement est avorté de manière très surprenante pour devenir une sorte de roman de la refiliation. Donc je trouve le film plus surprenant que ce que promettait l'affiche et la campagne marketing. Je trouve ça pas mal.
Grosse opération marketing hein, pour
ce film, très massive,
partout. Eric.
Bah, c'est un film qui est un peu comme le personnage à l'aéroport de Séoul, c'est en stand-by. On attend qu'il se passe quelque chose, on attend que le film commence. Jean-Marc a raison, il y a trois films et aucun n'est bien.
Le deuxième n'est pas loin d'être bien pour moi.
Non, le deuxième, comme tu dis, on pense constamment à Lost in Translation et c'est pas à l'avantage de l'Artigot parce que le réalisateur de La famille Bélier qui se prend pour la chicissime à l'époque, Sofia Coppola, ça marche vraiment pas là. Et le début là au Pays Basque dans ce restaurant qui existe.
Ça c'est absolument pas crédible. Ça.
Ah c'est pas crédible. Et puis alors la pauvre Blanche Gardin qu'on aime beaucoup,
qu'on adore,
la serveuse avec l'accent du Sud-Ouest, elle est en train de ruiner en un quart d'heure toute une carrière de comics.
Non, t'exagères un peu.
Parce que lui, bizarrement, il n'a pas l'accent. On ne sait pas pourquoi. Chabat, lui, il n'a pas l'accent du Midi. Il est basque, mais il ne parle pas comme elle. Et c'est vraiment un film sur les méfaits d'Instagram sur les vieux. Parce que il ne sait pas s'en servir. Il voit une Coréenne, on ne sait pas pourquoi. Il tombe amoureux d'elle. Alors, manque de peau, elle est artiste. Donc, il lui achète un tableau. Il se ruine. Il change la décoration de son bistrot pour mettre une toile absolument improbable. Et puis, il part pour la Corée où il se retrouve tout seul, le pauvre. Mais on est un peu dans cette situation. Parce que...
En même temps, cet aéroport est assez fascinant, hein, non, vous ne trouvez pas?
Oui, mais on peut faire ça à Roissy. Hein, ça coûte
moins
cher.
Je ne crois pas, justement.
Non, mais j'espère que toute l'équipe aura eu des miles avec tous ces voyages et qu'ils pourront partir de leur côté voir une Coréenne qui, j'espère, ne peindra pas.
Eva.
Alors, vous l'avez dit, c'est des films en trois parties, les uns et les autres. Mais c'est un film au départ boiteux aussi dans sa conception. Et finalement, à l'arrivée, c'est une sorte d'avantage parce que c'est parti pour ratisser très large, pour être une comédie familiale, grand public. Et on part sur un truc bizarre. Et à l'arrivée, ça devient une sorte de film d'errance. Il y a une idée qui est, au fond, très dure, qui est que on est, nous, occidentaux, un peu des sagouins. On prend nos désirs pour des réalités. J'ai envie de te voir.
Je crois que c'est l'apanage des occidentaux, ça.
Non, mais peut-être d'Instagram. Mais il y a
des Basques.
Oui, non, mais il y a cette idée quand il arrive et qu'en Corée...
Le courrier basque directement au Figaro à Eric Neuhoff. Hein.
Je ne veux pas dévoiler le film, mais il y a cette idée qu'on lui dit, bon, ben voilà, la subtilité, il y a une scène formidable, je ne veux pas dévoiler, une rencontre avec quelqu'un et qui est d'une dureté formidable. Si le film s'est arrêté là, il était formidablement audacieux. Donc moi, je trouve qu'il y a des vraies qualités dans ce film. Après, ben, il faut reprendre le public familial, on repart sur les enfants.
Tu as beaucoup dormi, je vois.
Non, je n'ai pas dormi. Je suis navrée, là, j'ai pas dormi. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très chouette dans ce que dégage Alain Chabat. Il y a quelque chose qui amène et de la mélancolie, et de la déprime,
il y a une
et de la
mélancolie
douceur.
Qui l'exprime bien.
Il y a quelque chose de très beau. Non, il y a quelque chose dans ce film, et il est assez gonflé, l'Artigot, de ne pas essayer de refaire un film à 7 millions d'entrées. Comme avait été.
Bah, qu'est-ce que tu en sais? Ça a pas,
il n'est pas calibré pour.
C'est pas parti pour, hein.
Il n'est pas calibré pour.
7 millions de sorties.
Michel.
Moi, j'ai pas du tout été surpris par le film, même si le sujet paraît original, parce que déjà, Philippe Lioret a fait ce film avec Jean Rochefort dans l'aéroport de Roissy, où Rochefort se retrouvait tout seul dans cet aéroport pendant une heure et demie. L'idée de Philippe Luret, le scénario, a été pas plagié, mais a inspiré Steven Spielberg pour le film Le Terminal, qui raconte aussi l'histoire de quelqu'un perdu dans un grand aéroport. Et là, évidemment, l'originalité...
Tu oublies Daniel Thompson.
C'est que ça se passe en Corée. Et effectivement, Alain Chabat, il est sur les traces de Claude Lanzmann et de Chris Marker en étant amoureux d'une Coréenne. Moi, ce que j'ai...
Ah, ça, j'aurais pas pensé à ça, tu vois.
Eux non plus, je crois.
La seule chose qui est un peu nouvelle dans le film, c'est effectivement, parce qu'il n'a jamais joué dans les autres films, c'est Alain Chabat. Moi, je trouve qu'il y a un certain charme dans la partie centrale, dans cette solitude, etc. Il y a quelque chose qui ne se passe pas, parce que c'est un film assez statique à ce moment-là, mais qui est en même temps, qui a vraiment une mélancolie et un certain charme. C'est dû au comédien lui-même. Mais en dehors de ça, je trouve que le film, pour moi, a tellement d'antécédents que ça ne m'a vraiment pas très intéressé.
Est-ce que sur Je suis là d'Éric Lartigot, il y a des réactions? Non. La fille au bracelet, le troisième film de Stéphane de Moustier, le frère d'Anaïs avec Mélissa Gers, Roche Dizem. Qu'est-ce qui tourne comme film, Roche Dizem? Et Chiara Mastroianni. Et la fille au bracelet, c'est Lise, qui a 18 ans, qui est jouée par Mélissa Gers, une bachelière qui habite chez ses parents, incarnée par Chiara Mastroianni et Roche Dizem. Elise qui porte depuis 2 ans un bracelet électronique. Elle est en effet accusée d'avoir tué, au terme d'une fête trop arrosée, sa meilleure amie, qui avait diffusé une vidéo compromettante, un film qui se déroule presque exclusivement dans la salle du tribunal où elle est jugée 2 ans après les faits et enfermée dans une cage en verre. Procès où Anaïs de Moustier joue l'intraitable avocate générale. Et Anne Mercier, que je trouve formidable, incarne la défense de Lise. Quant à savoir si Lise est coupable ou innocente, ça reste un mystère. C'est pas que je n'ai pas envie de le raconter, mais que ça reste vraiment un mystère. Michel.
J'aime beaucoup ce film. C'est pas un grand film, mais c'est un genre que les Américains pratiquent volontiers, le film de tribunal, le film de procès. Effectivement, comme tu le dis, tout est concentré sur ce procès, avec d'abord, déjà dès le début, une plage au bord de la mer, une famille, des policiers arrivent, tout en plan général de très loin, et on emmène une adolescente qui est séparée de sa famille. Déjà, on sent le contrôle d'un vrai metteur en scène, qui a le sens du rythme, qui a le sens du cadrage, qui a le sens... Et tout le film est d'une précision parfaite. C'est-à-dire, je trouve la direction d'acteurs, évidemment, ce sont de très bons acteurs, mais des acteurs absolument formidables. Roche Dizem n'est jamais meilleur que quand il est taiseux, il est aussi impressionnant. En père qui ne comprend pas, finalement, ce qui leur arrive. Chiara Mastroianni, qui au début est très silencieuse, ne participe pas, et finalement, qui va parler de façon bouleversante.
Ah oui, elle est dans la douleur.
Et puis, cette Mélissa Guerre, cette jeune adolescente, bien, qui est absolument incroyable, parce que pendant tout le film, comme tu le disais, à la fin du film, on ne sait toujours pas, je ne veux surtout pas raconter la fin du film, mais on ne sait toujours pas, on n'a pas de lumière particulière, et c'est ce mystère, plus évidemment, alors c'est ce qui a été critiqué dans le film, c'est moralisateur, non, c'est pas moralisateur, c'est un film qui observe la jeunesse d'aujourd'hui, et comment la génération des parents ne comprend pas le comportement de ces jeunes. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses incroyables sans être amoureuse, sans aimer particulièrement l'homme, mais on peut accepter des choses simplement comme ça pour essayer, pour voir. Et c'est donc quelque chose de très intriguant, ce conflit de génération. Et je trouve que le film est tenu de bout en bout. C'est pour ça que je trouve que c'est, de façon mineure, un très bon film.
Jean-Marc.
Oui, je trouve que c'est un film intéressant, notamment sur la question d'une misogynie qui serait larvée, inconsciente, infiltrée comme ça à tous les paliers de la société et jusque dans ses institutions. Il y a des scènes vraiment assez fortes lorsqu'on l'interroge sur ses pratiques sexuelles et où on la stigmatise précisément pour ses pratiques parce qu'elle est une jeune fille. Le film est assez puissant là-dessus et... Effectivement, la mise en scène est d'une très grande sobriété, presque aride dans ses procédés. Malgré tout, moi, il me manque quelque chose. C'est-à-dire que le film choisit de barrer tout accès à l'intériorité du personnage principal, ce que je trouve une idée forte, mais qui, dans le film, pour moi, procure une forme d'insatisfaction, parce que je trouve que ce mystère du personnage, il est trop décrété par la mise en scène et par l'interprétation que le cinéaste a donnée à la jeune actrice, qui est très bien. Et je ne vois pas le vrai mystère d'un personnage, mais plutôt une sorte de mystère de surface décrété. Et j'ai l'impression que le film n'éprend pas quelque chose, qui manque quelque chose en son cœur, qui déboucherait sur un mystère plus métaphysique que simplement psychologique.
Eva.
c'est un film qui refuse vraiment tout ce qui pourrait être un peu sensationnel. Même la première scène dont parlait Michel, à juste titre, elle est anormale. N'importe quel parent court avec ses enfants, sa fille quand les policiers l'emmènent. Et on voit soit ça de loin, après on voit cette fille avec un bracelet. On ne se demande si les parents la croient coupable, pas coupable, mais rien n'est dit. C'est plutôt à la lumière dans la maison qu'on voit qu'il y a un poids qui pèse sur la famille. Donc tout ça était par des toutes petites notations. Et en fait, c'est un film qui est du point de vue des adultes. C'est comment des adultes, aussi bien l'institution judiciaire que les parents, puisque dans l'accusation qui est portée contre cette fille, puisqu'elle se retrouve au tribunal, il n'y a pas de preuve flagrante. Il y a des indices, et donc le seul sujet, c'est elle. Peut-elle l'avoir commis, puisque nous n'avons pas la preuve? Et c'est un mystère sur lequel on peut tout
projeter. Non, mais on a le motif.
On a le motif, mais on n'a pas la preuve absolue.
Mais...
Et donc, on est à la limite, on peut se dire à l'extrême que cette fille n'a aucun sentiment, aucune culpabilité, rien, que c'est une sorte de vide où on peut remplir ce vide de ce qu'on veut. Donc c'est finalement...
La cage en verre ajoute à...
Exactement. Et je crois que j'ai lu que cette jeune femme, Mélissa Gers, et c'est son premier film, est gymnaste. Au départ, elle voulait être gymnaste et elle a cette manière de se tenir très droit et cette sorte de visage où elle n'est absolument pas diabolisée, elle est une sorte de surface lisse sur laquelle on peut tout projeter. Donc il y a une forme d'aridité dans le choix du film qui est à la fois intéressante, et il faut dépasser la première frustration pour voir tout ce que le film contient.
Éric,
ben, ça n'est pas si mal, mais il vaut mieux revoir le film argentin dont s'est inspiré
Acusada. J'ai failli l'évoquer. C'est presque littéral d'ailleurs.
Tout à fait, parce que l'Argentin s'intéressait beaucoup plus à ce qui se passait dans la maison et les répercussions de cette histoire sur la famille, ce qui était sans doute plus intéressant que le procès.
Il était plus capable de rappeler le titre.
Acusada.
Acusada. Ouais.
Et là, oui, non, c'est pas si mal, mais le film, comme vous dites, est quand même un peu sec, un peu froid, et pas toujours très bien écrit. Quand on demande à la gamine quels étaient les rapports avec la victime, elle dit « on était meilleurs amis », mais on dit pas ça, on dit « c'était ma meilleure amie ». Il y a des petits trucs comme ça, mais le film n'est pas du tout honteux, et surtout il tient beaucoup par les acteurs, par Roche Dizem, dont tu disais, Michel, quand t'es eux, il savait très très bien faire ça, et surtout Chiara Mastroianni, qui au début refuse d'aller au procès, et qui finit par céder, par craquer, et aller s'exprimer devant tout ce tribunal, et elle est vraiment ailleurs, à garde. On sent que c'est une mère brisée, une femme déboussolée, et que ce fait divers a jeté comme une pierre au milieu de cette famille, et que plus rien ne sera jamais pareil entre eux, sauf pour le petit frère qui, lui, voit dans cette histoire l'occasion de récupérer la chambre de sa sœur si jamais elle est emprisonnée. Et ça, c'est un détail très juste. Le film est intéressant, mais ça n'est pas un chef-d'œuvre, et ça n'est pas très...
Y a pas de chef-d'œuvre.
Et l'avocate Anne Mercier, je trouve très...
Et Anaïs Desmoutiers. Il a confié à sa sœur un rôle
qui est très bien en procureur pète
sec. D'avocate générale qui est d'une peste, qui est vraiment.
Elle est aussi
exceptionnelle dans ce genre d'interprétation que dans tout le reste. C'est une grande actrice.
La fille au bracelet de Stéphane Desmoustiers. Pas de réaction sur ce film, non. Si.
J'ai bien aimé la position du film, c'est-à-dire qu'on est comme les jurés, on ne sait pas ce qui va se passer, mais. Comme je fais partie des spectateurs qui restent jusqu'à la fin du générique, vous avez tous parlé de cette première scène qui est formidable au niveau de la mise en scène. Je me suis dit, on va assister à un truc. Et j'ai lu que la première scène n'est pas du metteur en scène.
Comment ça ?
Eh bien, il est écrit que la scène du début n'est pas du metteur en scène, n'est pas de Desmoustiers.
Vous avez vu ça au générique ?
Mais vous n'étiez pas dans la bonne salle.
Donc, j'invite les gens...
C'est vrai ?
Je l'ai lu. Et
le reste non plus.
J'avais lu la presse, je sais pas, Télérama ou Les Arocs. Je crois que c'est dans Les Arocs, c'est Émilie Barnett qui dit cette scène est très intéressante puisque la caméra est loin, etc. Effectivement, la mise en scène est fantastique. Et je regarde le générique et je lis, sauf la première scène. Bon. Alors, il a peut-être donné ses instructions. Toujours est-il que cette fameuse mise en scène ne serait pas de lui. Voilà. Les spectateurs vous enverront des...
Merci
des
pour votre intervention et surtout pour votre conseil, parce que maintenant, je resterai jusqu'au noir final. Le Prince oublié, le nouveau film de Michel Hazanavicius, à destination des enfants et de certains adultes un peu attardés, avec Omar Sy, Bérénice Bégeau, François Damiens. C'est un film construit sur un d'incessant aller-retour entre le réel et le rêvé. Alors, Jibi, donc, qui est un père célibataire, c'est Omar Sy, raconte le soir des histoires à sa fille Sophia pour l'endormir, histoires dans lesquelles il est un prince charmant et elle une princesse. histoire qui se déroule dans une sorte, j'ai du mal à le définir, de sorte de grand parc d'attractions. Oui, c'est ça, avec François Damiens dans le rôle du méchant édenté, jusqu'au jour, un peu inévitable, où Sophia grandit, elle devient une petite ado, d'ailleurs elle change de comédienne, elle n'a plus besoin d'histoire le soir, ça c'est vrai, d'autant que le nouveau prince charmant de Sophia est un garçon blond de son âge, dont seulement le père donc devient un compteur au chômage, mais en plus il a pour rival un gamin. Heureusement, Comarcy peut compter sur sa voisine de palier, Bérénice Bejo, façon d'ajouter une love story à cette féerie très dispendieuse, à mon avis, ça, assez rapide, hein, 1h30, 1h35, mais qui a dû coûter bonbon. Éric.
Bah, ça porte bien son titre, hein, Le prince oublié, c'est fait. Là, c'est... mais... quand on sort de là, on se dit qu'il y avait un meilleur titre, c'est Le prince qui s'oublie. Parce que le film part d'une idée assez originale, ça, ce père qui raconte des histoires et qui se transforme en héros de studio hollywoodien, c'est pas si mal, moi je trouve ça. Mais le problème, c'est que c'est terriblement répétitif, très très ennuyeux, d'une laideur intersidérale. Là,
c'est... Je pense que c'est voulu, ça, pour le coup.
Ah oui, mais pourquoi?
Ben parce que justement, pour faire une sorte de parc d'attractions...
Ah oui, mais non, mais c'est très très laid, les effets spéciaux sont ratés, ça a coûté 25 millions d'euros quand même, cette plaisanterie.
25 millions
ouais. Et c'est dommage, parce que Hazanavicius est quand même un auteur assez intéressant. Les OSS étaient marrants comme tout, bourrés d'inventions. J'aimais beaucoup aussi le film sur Godard, ça va faire hurler Jean-Marc, je pense, Le Redoutable.
Je préfère celui-là que Le Redoutable.
Ah oui, bah non. Et il a aussi réalisé un film horrible sur l'ex-Yougoslavie, The Search, qu'on avait vu à Cannes.
Tu parles pas de The Artist?
Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Oui, non, j'aime beaucoup les 20 premières minutes, et puis ensuite... Mais là, c'est un peu la même chose. C'est un film très redondant, répétitif. Et c'est pas un film pour les enfants, sauf s'ils sont punis. Et c'est un film où il fait tourner...
Ça peut plaire, si...
Non, ah non, ça dure seulement 1h30. Moi, j'ai eu l'impression que ça en durait 2h et quelques. Et non, c'est très laid, très bête. Il y a François Damiens qui joue le méchant là dans les histoires et qui s'appelle Prit Prout. Alors ça, ouais. Je sais pas à quel âge on peut encore rigoler de ça, mais c'est...
Voilà. Oh, il n'y a pas d'âge pour le Prout, hein.
Non, il n'y a pas d'heure non plus. Mais non, mais c'est dommage, j'attends le prochain film d'Hazanavicius, parce que là, pour l'instant, c'est un conte de fées à dormir debout ou assis dans son fauteuil.
Jean-Marc, tu dis que tu préfères ça au Redoutable?
Vraiment, Le Redoutable est un film qui me hérissait. Ce film-là m'ennuie passablement, mais ne m'a pas hérissé.
Il n'y a pas Godard.
Mais ce qui me frappait, c'est quand même qu'il y a une incapacité à atteindre une forme de poésie chez Hazanavicius. C'est-à-dire qu'il vise quand même l'exploration de l'imaginaire enfantin. On pense à des films qui commencent aussi par des récits racontés à des enfants, comme Édouard Romain d'Argent, Princess Bride, où on atteint une forme de poésie, de féerique. Que là, vraiment, le film est inapte à atteindre ça. Je trouve quand même que le film est très laid. C'est-à-dire que quand on est dans la réalité, on est vraiment dans une sitcom plastiquement inintéressante au possible. Quand on bascule dans le rêve, on est dans une publicité pour céréales pour enfants. Le film est vraiment assez hideux. Mais au bout d'un moment, je m'ennuyais tellement que je cherchais des idées à quoi m'accrocher. Il m'est apparu qu'il y avait quand même une obsession chez Hazanavicius qui fait quand même de lui vraiment un auteur, au moins d'un point de vue thématique. C'est la terreur de la question de l'adaptation. Et au fond, le film raconte la même chose que The Artist, c'est quelqu'un qui a très peur d'un moment de transition, qui était le passage du muet au parlant dans The Artist. Là, c'est le passage de l'enfance de sa fille à son état de jeune adulte, et c'est la peur d'être oublié, d'être balayé par l'histoire et par le temps qui passe. C'est aussi la question du redoutable, c'est-à-dire comment Godard renonce à son œuvre. Et lui, au contraire, va être une sorte de génie de l'adaptation, et c'est précisément pour ça qu'Hazanavicius le condamne. Il y a vraiment une espèce de phobie de la question de s'adapter au monde qui change, et OSS, c'est aussi sa question. Bien sûr, c'est un personnage totalement désuet, qui n'arrive pas à s'adapter à son époque. Donc ça, finalement, je me suis dit, il a quand même un truc, une obsession, au moins, même si, pour l'instant, il n'arrive pas totalement à faire des films.
Eva?
Moi, je trouve qu'il y a plusieurs choses dans ce film. Je dis pas qu'il est parfait, mais il y a des choses qui m'intéressent. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dedans. Je trouve qu'on peut tout à fait amener des enfants. C'est la même idée que Toy Story. Les enfants qui grandissent et qui jettent les jouets, sauf que ses parents les jettent pas. On leur dit salut, tu es gentil, mais oublie-moi avec les histoires. C'est la base demeure la même. C'est qu'il y a quelque chose de douloureux pour les autres quand les enfants grandissent. Je trouve que là où il a dépensé le moins d'argent, c'est dans la vie réelle. Il y a des idées qui passent. Par exemple, le fait qu'ils choisissent Omar Sy. Certes, c'est une des plus grandes vedettes françaises aujourd'hui, mais il choisit un héros noir, une petite fille noire, de la manière la plus naturelle du monde. Il est dans la réalité, dans une sorte de monde qui serait idéal, où le petit copain est blond, il sort après que sa voisine qui est blanche, et la question de la couleur ne se pose pas. Il monte un monde non bourgeois.
En quoi ça te surprend, je veux dire?
Mais c'est... parce que le cinéma français aurait tendance à choisir le héros, l'acteur blanc, la petite fille blanche. C'est chouette qu'ils le mettent aussi naturellement. Finalement, prenons le cinéma, une histoire de ce genre serait racontée avec des héros blancs. Et je trouve ça intéressant. C'est aussi un héros qui n'est pas un bourgeois, mais il n'en rajoute pas dans le côté misérabiliste. Il y a un certain nombre d'éléments que je trouve vraiment intéressants. Dans les couleurs criardes, c'est une idée du monde de la fiction. Le monde de la fiction est plus dur que le monde réel. Dans le monde de la fiction, on t'efface, tu vas aux oubliettes. Et il y a aussi la question de, effectivement, qu'on peut faire une métaphore avec le cinéma, qu'est-ce qu'il advient de nous le jour où on ne veut plus donner des histoires. Donc je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Après, comme probablement parce que le film a coûté très cher, il faut retomber sur ses pieds avec un côté gentil et familial. Mais il y a une part de dureté qui ne va pas aussi loin que des films d'animation. Toy Story fait pleurer autant que la mort de Bambi. Mais avec ce film-là, il ne peut pas aller aussi loin que pas Toy Story.
Michel ?
Oui, mais comme tout à l'heure, je suis là, ou The Gentleman, ou d'autres films dont on va parler, avec ce film-ci, c'est encore le regret de ce qu'il n'est pas et de ce qu'il aurait pu être. C'est-à-dire, moi, quand j'ai vu ce film, qui est massacré dans pas mal d'endroits, de façon, à mon avis, injuste, parce qu'il a tellement eu de succès, et ça n'avait su qu'il y a un moment où on a envie de sacrifier des gens, mais le film est raté. Mais je pense à Minelli, moi j'imagine un film hollywoodien de 1950, avec un monde imaginaire qui ne soit pas peint en jaune, affreux, criard, etc., comme cette vie imaginaire qui n'a aucun charme, aucune séduction. Et je pense que la force de Azanavicius, c'est finalement le pastiche, la parodie, etc., c'est-à-dire les OSS 117, The Artist, le film sur Godard qui me paraissait très intéressant, alors que le désastre de son film de guerre est celui-ci qui est à moitié raté, mais qui n'est pas non plus... si on le prend comme un film pour enfants, je suis sûr que les enfants vont le voir, vont pas, à mon avis, s'ennuyer, comme on a pu le dire. Je pense que le film leur plaira, parce qu'il y a une certaine fantaisie, un certain humour, et puis malheureusement, bon, peut-être qu'ils n'auront pas les références de Minelli que j'ai faites.
Le prince oublié, c'est Michel Azanavicius. Oui, une réaction. Le micro vient vers vous, c'est devant. Bonsoir, monsieur.
Je viens de voir le film avec mon petit-fils, précisément.
Ah, qui est à côté de vous.
Qui est à côté
de... Je le dis parce qu'il n'y a pas de caméra voilà. Encore sur les postes
qui
de radio.
Qui a 8 ans et demi, Octave, et qui a...
8 ans et demi.
Voilà, qui a assez apprécié le film et qui tenait à...
Alors, passez-lui le micro dans ce cas-là. Bonsoir, comment tu t'appelles ?
Octave.
Octave.
Avec mon papy, on a trouvé le film moyen, pas terrible.
Il peut rentrer au masque.
Oui, il est un peu intimidé. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec Eva Bétan. Je pense que le film n'est pas complètement négatif. Et il y a des moments de poésie dans ce film. Effectivement, la couleur de peau ne se pose pas. Et on voit toujours revenir Bérénice Bejo avec beaucoup d'admiration. Et on voit l'idylle qui va arriver avec Omar Sy, en tout cas les personnages qu'ils incarnent. Et puis il y a aussi quelque chose. Elle n'entre pas, la jeune fille, dans sa vie d'adulte. Elle entre dans sa vie de préadolescente. Et au moment de ce qu'on appelait à notre époque la surprise partie, on voit bien la différence.
La surprise partie.
Et qui est magnifique. Vous vous souvenez, monsieur?
Ah oui.
Les surboom, les surpattes après.
On dansait le menuet.
Non, pas du tout. On dansait. Enfin, bon.
Mais dites-moi, monsieur, vous l'avez plus aimé que Coctave, apparemment, hein, le film.
Oui, non, mais c'est un film moyen, mais il n'est pas négatif, parce qu'il y a une scène qui est très très belle. C'est le dessin qui est offert par la jeune fille à son prince charmant, et on voit le petit prince à ce moment-là, et on voit que les adolescents, eux, qui sont au lycée, car elle est entrée au collège, ils ne comprennent pas, justement. Il y a une différence de génération qui se joue sur 4 ans, finalement, parce qu'elle a 11 ans, les autres, ils ont 15-16 ans, et il y a un fossé entre eux complet. Et puis à la fin du film, resté jusqu'au générique final, la chanson de la fin.
Là, on apprend qu'il n'a rien réalisé du tout à Azanavicius.
La chanson
c'est
de la fin.
C'est le même que de l'autre film.
Écoutez la chanson, je crois qu'elle est chantée par une chanteuse fantine, me semble-t-il. La chanson est tout à fait remarquable et elle résume bien le film, justement, sur le temps qui passe et sur les adolescents qui s'affranchissent de leurs parents petits. Ce qui est toujours un crève-cœur pour les parents et les grands-parents, bien sûr.
Merci de votre intervention et merci, Octave, de ta brève intervention. Dans Le Masque et la Plume, je crois que c'est une première à 8 ans. Pas d'autres réactions, non. Un divan à Tunis, on va aller un peu plus vite. si on veut évoquer tous les films, à Divan à Tunis de la Tunisienne Manelé Labidi avec la toujours incandescente Golshifteh Farahani, avec Maj de Mastoura, Aïcha Ben Miled, toute iranienne qu'elle soit d'ailleurs, Golshifteh Farahani, incarne ici Selma Derwish, une Tunisienne qui, après avoir exercé en France, ouvre son cabinet de psychanalyse sur le toit d'une banlieue populaire de Tunis au lendemain, il faut le préciser, de la révolution de Jasmin. La comédie s'amuse de tous les quiproquos que favorise l'exercice de la psychanalyse, entre ceux qui prennent par exemple le Freud barbu pour un frère musulman et ceux qui pensent qu'on ne saurait s'allonger sur un divan que pour des prestations tarifées, sans compter l'officier de police qui en pince pour Selma, mais on le comprend, mais lui réclame une autorisation officielle si elle veut continuer à pratiquer la psy. À Tunis, ce film court, 1h28, qu'en avez-vous pensé, Eric?
Il y a de la peinture naïve, et ça, c'est du cinéma naïf, mais c'est très reposant.
C'est plus
ça...
que naïf, je trouve.
Oui, oui.
C'est mieux que naïf.
Oui, c'est mieux que naïf, mais il y a vraiment quelque chose, une fraîcheur, un côté charmant, et toute une comédie sociale, parce que le sujet, apparemment, une femme qui s'installe dans un cabinet d'analyste, ça devrait pas bouleverser la société.
Sauf que c'est un pays qui vient de se libérer.
Voilà, hein. Exactement. Et puis, c'est quand même une discipline, visiblement, auquel les gens ne sont pas habitués. Et le film est complètement porté par Farahani, qui est radieuse avec son sourire, ses blue jeans, ses sandales, et qui débarque là.
N'en fais pas trop. Attention à ce que tu dis, tu le sais bien.
Non, mais c'est une très bonne actrice, en plus. C'est un petit déclencheur. C'est tout un tas de vignettes qui se succèdent avec le boulanger, une scène de hammam, le flic qui est amoureux d'elle, celui qui la prend pour une prostituée parce qu'il pense qu'un divan et des séances, comme tu le rappelais, c'est forcément quelque chose d'un peu olé olé. Et tout est comme ça, elle conduit sa vieille 404, et elle vient de Paris. Oui. Elle a presque envie d'y retourner parce qu'elle n'est pas du tout acceptée, c'est toutes les préjugés.
Et en même temps, elle a envie d'accompagner.
Oui, et puis il y a la sœur.
La libération
qui a un rôle important,
de son pays.
Qui est voilée, qui veut se marier pour partir du pays. Non, il y a vraiment un rythme, des sourires et un côté observation de toute une société qu'on connaît mal, qui fait vraiment très très plaisir.
Eva?
Je suis beaucoup plus réservée. Je trouve que le film commence bien. Il y a un côté, avant le générique, les deux, trois scènes sont drôles. La manière dont elle entre, son déménagement, la réflexion que fait l'un l'autre. Et puis, au bout d'un moment, elle me fait un peu l'impression d'un footballeur qui marquerait un but contre son camp. C'est-à-dire que toutes ces vignettes, les personnages, il y a quelques personnages secondaires très bien, mais rien n'est vraiment creusé. Et le pays, pour avoir l'autorisation, il faut aller 25 fois. La secrétaire essaie de lui vendre des soutiens-gorge en même temps. Tous ces clichés amènent à une sorte de caricature. Et moi, ça m'a mis assez mal à l'aise.
Ah bon, tu trouves qu'il y a de la caricature?
Je trouve que pour le côté post-révolution, Noura Rêve est un film infiniment supérieur, qui est sorti il y a quelques mois.
Oui, mais c'est pas le même,
c'est pas le même registre. Mais je trouve que toutes ces petites, c'est, pour arriver à se moquer gentiment des siens, c'est extrêmement difficile. Et elle me fait le regard de quelqu'un qui arrive chez elle comme une étrangère. Et je trouve que toute cette accumulation arrive à être assez désagréable.
Jean-Marc?
Je trouve quand même que le film a vraiment du charme et est très enlevé, très bien tricoté. Le film est vraiment bien écrit, bien dialogué, évidemment très bien interprété. Là où je rejoins quand même un peu Eva, c'est que j'ai l'impression que le film a peur de la parole alors que ça devrait être son sujet. Et dès qu'on s'installe dans une séance d'analyse, contrairement par exemple à cette grande série israélienne qui a donné une treatment et qui était très très fort sur ce que c'est qu'une séance, le sujet ça devrait être le moment où la parole se libère. Et j'ai l'impression que la réalisatrice ne cesse de biaiser ce moment-là parce qu'elle a peur de s'installer dans quelque chose de trop pesant et qui tout à coup pourrait pénaliser la comédie et qu'il faut que le film soit enlevé tout le temps. Et du coup, c'est quand même un peu effectivement une succession de scénettes, ces moments de psychanalyse qui sont tout de suite court-circuités par un gag. Et j'aurais aimé, c'est parfois le cas avec l'esthéticienne qui est peut-être le personnage secondaire le plus approfondi, mais le film est à mon avis insuffisant sur cette question-là de l'analyse et de la parole.
Petite parenthèse, est-ce que c'est Golshifteh Farahani, mais le film connaît un vrai succès depuis sa sortie en salle auquel on ne s'attendait pas vraiment. Michel?
Non, moi ce que je sauve, c'est effectivement la merveilleuse interprétation de Golshifteh Farahani. qui a tout ce qui manque au film. C'est-à-dire, je trouve que c'est une succession de scénettes, comme vous l'avez dit, de personnages folkloriques. Alors, il y en a qui sont plus ou moins drôles, comme en particulier la coiffeuse, par exemple.
Ah, qui a un rôle très important.
Rôle important, mais assez répétitif. Et là encore, on pense à Dino Risi, on pense aux grandes comédies italiennes, où le couteau était dur, c'était à la fois drôle, mais perçant sur la société. Ici, c'est tout de même par rapport à ce que la Tunisie traverse, c'est tout de même un film extrêmement sage. Très sage.
C'est un premier film hein, aussi.
Oui, mais alors il y en a tellement de grands premiers films. Arrêtons.
Citizen
Kane. L'histoire des premiers films. Ce qui est dur, c'est de faire le sixième film, mais pas le premier.
Un divan à Tunis, c'est donc le film de Manele Labidi. Notre-Dame du Nil de l'écrivain cinéaste Atik Raimi, l'adaptation du roman de Scholastic Mukasonga, avec Santa Amanda Mugabekazi, Albina Sidney-Kirenga, Carole Trévoux et Pascal Grégory. Le film s'ouvre, là je le raconte pour Eric et pour Jean-Marc qui ne l'ont pas vu. Le film s'ouvre dans un décor de rêve, vraiment, une montagne verdoyante au Rwanda, à 2500 mètres d'altitude, là où naît le Nil, près d'une statue de Vierge Noire. Il y a un institut catholique, Notre-Dame du Nil, et on est, il faut le préciser d'emblée, en 1973. Le Rwanda, présidé par un Hutu, a commencé déjà son plan de purification ethnique qui provoquera 20 ans plus tard le génocide des Tutsis. Et dans ce pensionnat religieux, il y a donc, en 73 déjà, un quota qui impose une minorité de Tutsis, pas plus de 10%, que leurs camarades traitent de cafards. Alors il y a aussi un voisin un peu allumé dans le coin, qui est joué par Pascal Grégory, qui considère au contraire les Tutsis comme des descendants de l'empire des pharaons noirs et qui veut les portraiturer avant qu'il ne soit trop tard. C'est donc un film où l'Afghan, je le rappelle, Atik Raimi, a fait sienne la cause rwandaise et il veut montrer ce paradis qui est menacé déjà et comment la peur va gagner les jeunes filles de Notre-Dame du Nil. Si j'avais moi un reproche à lui faire, c'est peut-être la beauté de l'image qui donne bien la mesure de ce paradis qu'était le Rwanda avant la tragédie. Mais parfois, ça peut donner l'impression qu'il s'éloigne précisément de ce drame Eva.
Comment dire ça poliment? Il n'est pas à la hauteur du sujet qu'il faut traiter. C'est-à-dire que la première partie qui... Ça se passe dans une sorte de monde idéal. C'est un pensionnat pour jeunes filles extrêmement aisées. Elles sont entre elles. Elles
sont toutes destinées à être les
filles. Voilà, elles
pays,
sont filles du ministre. Alors, voilà. Pour qu'on comprenne, il y a un côté assez maladroit. Oh, toi, la fille de ministre, tu rentres chez toi, etc. Mais il y a une sorte de joliesse qui est accentuée avec des ralentis, la bataille de Polochon avec les plumes qui volent et tout. C'est assez difficile. On ne comprend pas vraiment comment arrive la montée de tension. Alors, c'est illustré par une des filles qui est une sorte de diablesse, mais du coup, ça amoindrit le propos. C'est une sorte de méchante qui remonte les autres. Le rôle que joue Pascal Grégory devrait être un rôle important parce que j'ai lu que les colonisateurs avaient une sorte de théorie sur les Tutsis qui, en fait, faisaient deux...
Sur les filles du pharaon noir.
Voilà, exactement. Qui ne les a pas servies du tout. Or là, il a l'air d'une sorte de libidineux. On comprend pas du tout comment ça arrive. Je trouve que vraiment, vu l'enjeu, le film est vraiment raté.
Le roman de Scholastic Mukasonga est un très beau...
Tout à fait.
Michel.
Bon, je trouve le film assez insipide. C'est-à-dire, effectivement, il essaye de faire la généalogie du génocide 20 ans avant. Ce qui va se passer...
Non, c'est la montée.
Oui.
La montée, c'est pas la généalogie, c'est la montée.
Bah, c'est tout l'origine de tout cela qui va conduire au massacre des Tutsis. Mais j'ai trouvé ce film tellement insipide, comme disait Eva, tellement en deçà du sujet... que j'ai vraiment pas envie de développer beaucoup. J'ai trouvé ces deux personnages de Virginia et Véronica, elles sont gentilles, elles sont sympathiques, on les voit comme des victimes potentielles, mais je trouve le film vraiment d'une grande faiblesse cinématographique.
Notre-Dame du Nil de Atik Raimi, je le rappelle, prix Goncourt pour Singwe Sabour, Pierre de Patience, qu'il avait d'ailleurs également lui-même adapté au cinéma, et lisez, c'est en poche, le roman éponyme de Scholastic Mukasonga. Et on termine rapidement avec un documentaire assez troublant qui s'appelle La Cravate de Mathias Thierry et Étienne Chailloux, qui a fait déjà un film intéressant, La Sociologue et l'Ourson, et là qui est consacré à un garçon de 20 ans, Bastien, qui vit dans le nord de la France, et après avoir été skinhead, il s'engage à ce qui était encore à l'époque le Front National. Il gravit les échelons, d'où la cravate, attribut des politiciens, jusqu'à être un bref temps conseiller un peu en com de Florian Philippot, qu'il finira par rejoindre après avoir quitté le parti de Marine Le Pen. Bastien, donc, il parle à visage découvert, face caméra. Selon un procédé qu'il faut quand même expliquer, il lit le verbatim rédigé préalablement par les deux réalisateurs et il ne cache rien de son parcours, lequel est entrecoupé d'images d'archives, dont la fameuse visite de Marine Le Pen aux ouvriers de Whirlpool, avec au cœur de ce témoignage une révélation terrible que fait Bastien, mais qu'on ne va pas raconter, sans que jamais il y ait un côté moralisateur. C'est vraiment l'effet et ce personnage troublant de Bastien dans la cravate. Rapidement, Jean-Marc.
Moi, j'aime vraiment beaucoup, et essentiellement grâce au dispositif que tu décris, qui est vraiment très puissant,
qui est unique d'ailleurs,
qui est très original, et surtout qui trouve complètement sa nécessité. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est sans cesse confronté à des images de lui, à la fois un récit qui a été fait et qu'il lit, et sans arrêt on lui demande s'il s'y reconnaît ou pas, et aussi des images puisqu'il devient le spectateur du film qu'on a vu, et là encore, il doit statuer sur l'image qu'il renvoie de lui. Et ce qui est vraiment très beau, c'est qu'on sent que ce personnage est obsédé par cette image de lui. Il ne cesse de dire « est-ce que je suis un connard ?» On sent qu'il est au bord d'une prise de conscience, d'une remise en cause, mais qui n'arrive pas vraiment à se formuler et qui ne va pas trouver dans toutes ces pièces qu'on lui apporte. C'est vraiment un film qui sonde très profondément son sujet et son personnage.
Éric.
C'est l'histoire d'un type de 20 ans qui a une photo de Marine Le Pen au-dessus de son lit, ce qui est déjà bizarre, mais qui en plus travaille dans un magasin où on organise des combats au sabre laser, ce qui est encore pire. Le dispositif est un peu déstabilisant, mais on voit la puissance qu'a une caméra. C'est que tout d'un coup, il est très content de devenir quelqu'un, d'être une vedette. Et il se fait complètement piéger, parce qu'il n'a pas pu être reconnu dans son parti, parce que c'était un...
Je trouve pas qu'il se fasse piéger.
Ah, quand même un peu. On les sent jubiler beaucoup derrière
la
caméra.
Oui, mais il approuve le verbatim qu'on lui remet. Je veux dire,
mais on voit bien qu'il comprend pas ce qui se passe. C'est pas tellement un verbatim. En plus, c'est le commentaire que les deux types ont écrit sur les images qui vont être diffusées. Mais c'est très intéressant. Et on voit la vanité des gens, la soif d'image que tous les gens ont. Et on voit aussi comment se passe à l'intérieur d'un parti le mépris de classe, parce que il est pas à la hauteur, on le bazarde, on voit comment s'occupe de lui le responsable de la permanence, qui lui fait mettre une cravate, et lui c'est un pauvre petit gars. Et on voit que maintenant le parti en question veut la respectabilité, parce que un ancien skinhead, ils n'en veulent plus.
Michel.
Oui, alors moi, le dispositif que Jean-Marc aime beaucoup, moi, c'est ce qui m'a complètement troublé, gêné, exaspéré.
Pourquoi ? C'est-à-dire,
parce que enregistrer tout ce qu'un garçon dit directement, et puis ensuite rédiger une voix off dite par les auteurs du film, je crois que dans les grands documentaires, il y a deux possibilités, deux options. Celle de Depardon, de Lee Cogg, de Wiseman, c'est-à-dire de filmer la parole et la personne nous révèle mille choses en les faisant face à la caméra, ou alors Marcel Ophuls, qui est ironique, qui est dialectique, qui pousse l'homme dans ses retranchements pour lui faire avouer des choses. Là, on a la preuve de ce que je dis, c'est que la partie la plus intéressante du film, c'est justement quand il répond directement à la caméra et qu'il parle, qu'il raconte qu'il avait voulu massacrer tous les gens d'une école.
Non,
pas la fin du film.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est la clé du film.
C'est le moment le plus passionnant du film.
Oui,
et justement, il y a pas de commentaire. Donc le film, ce que j'ai trouvé intéressant.
On accède à une profondeur du personnage.
Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est que il nous révèle la nouvelle stratégie du Front National, qui s'appelle plus le Front National.
C'est à l'époque où Philippot est encore au
front. À l'époque, c'était le Front National. Maintenant, c'est le Rassemblement National. C'est-à-dire, contrairement à l'autre extrême, qui est plein de haine pour une autre partie de la France, c'est le Rassemblement. Marine Le Pen est devenue très gentille. Elle aime tout le monde. Elle attaque même pas les patrons. Elle attaque pas, à part les émigrés. La France est une grande famille. Il n'y a pas de discours de haine. C'est la grande transformation du FN qui le rend d'autant plus dangereux. Ça, le film le montre très bien.
Eva.
Justement, le film est une réponse à ça. Et tout le monde, ce homme politique, journaliste, tout le monde se pose la question, comment je fais avec le FN pour lui parler et ne pas me faire avoir, pour ne pas qu'il m'impose son discours, pour ne pas... Eux, ils inventent une forme où on comprend qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, mais ils disent... Ils arrivent à établir un dialogue avec lui. Et l'autre niveau de lecture du film, c'est qu'il montre le processus de dédiabolisation. Et je trouve que arriver à établir un dialogue avec quelqu'un qui n'est pas de votre bord, où personne ne sait comment traiter le Front National sans se faire avoir par lui, c'est la grande intelligence de ce dispositif. Il fallait bien en trouver un. Ils ont donc inventé autre chose que ce qui existait.
Mais
ils l'ont inventé. Leur dispositif fonctionne parce que...
des dispositifs.
À la fois, ils respectent ce garçon et ils ne sont pas d'accord avec lui.
La cravate, c'est donc le film que je trouve très intéressant de Mathias Théry et Étienne Chailloux. Allez, un conseil pour terminer cette émission. On commence avec Eva.
La réédition du livre de Bertrand Tavernier, Ami américain, qui est un livre qu'il avait écrit en 1993, un classique, qui était épuisé. Il l'avait réaugmenté en 2008. Là, il ressort avec une introduction magnifique où il dit combien le cinéma a fait sa vie, a fait son bonheur. C'est un livre qui est très gros, qui fait 1000 pages. Ça commence par John Ford, ça termine par les cinéastes cinéphiles d'aujourd'hui, Joe Dante, Tarantino, bien sûr, avec 200 pages sur la liste noire, sur le macartisme, avec des illustrations, on peut aussi bien le livre que le feuilleter. Ça fait partie des ouvrages. Et puis, il a une cinéphilie qui est heureuse, une cinéphilie qui a envie de transmettre. Et c'est un très beau livre, et c'est un livre qui vous accompagne longtemps.
Eva,
oui, c'est l'Institut Lumière et Actes Sud en même temps. C'est pas cher pour ce que c'est, 59 euros pour 1000 pages et plein d'illustrations. Mais il y a le poids, hein, il doit peser 3 ou 4 kilos.
Michel.
Oui, bon, je suis d'accord avec Eva sur le livre de Tavernier. Moi, je voudrais signaler un livre de Bernard de Fallois, Les Chroniques cinématographiques. Aux éditions de Fallois, évidemment. On sait que de Fallois,
qu'Éric avait conseillé dans une émission,
a découvert Jean Santeuil. Il a découvert des textes inédits de Proust. C'est un grand critique littéraire. Mais entre 59 et 62, il a écrit dans Art et dans Le Nouveau Candide. Et on peut voir ce que c'est qu'un grand critique. C'est-à-dire d'abord le style, merveilleusement écrit. L'indépendance du jugement totale, c'est-à-dire il y a des éreintements de vaches sacrées, il y a aussi des défenses surprenantes de René Clément, par exemple, il adore Plein Soleil, et puis des textes sublimes sur Fellini et Buñuel, et on découvre qui a succédé à Truffaut Art, en souvent étriant certains cinéastes de la Nouvelle Vague. Mais c'est passionnant à lire, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, parce que c'est un grand critique, Bernard de Fallois, Chronique cinématographique aux éditions du même nom, de Fallois.
Deuxième fois donc qu'on conseille ce livre, Eric.
Je vais être un peu snob, je vais conseiller un livre.
Mais vous n'avez que des livres ce soir à conseiller, ouais. Vous n'avez pas de film à conseiller?
Un livre qui vient de sortir aux États-Unis qui s'appelle The Big Goodbye de Sam Wasson.
Ah, tu veux dire qu'il n'est pas trouvable en France?
Non, mais j'ai dit que c'était un peu snob. Et qui raconte
C'est pas sympa surtout, c'est pas sympa.
Tu vas voir, qui raconte toute l'aventure de Chinatown avec le producteur Bobby Vance, Robert Tan, le scénariste, Polanski qui revient. Et on découvre tout un tas de choses, je sais pas comment le type a fait. Même Peter Biskin, l'auteur du Nouvel Hollywood, a été jaloux, a dit « j'ai appris des choses ». Et la première phrase c'est « Sharon Tate ressemblait à la Californie ». Et on commence et on est parti, et j'espère qu'un éditeur français va traduire ça.
Le conseil de Jean-Marc.
Alors moi c'est un film, c'est un film qui s'appelle Queen and Slim, c'est un film d'une jeune cinéaste américaine qui s'appelle Melina Matsoukas, qui raconte... comment deux jeunes Afro-Américains qui se rencontrent pour la première fois après avoir commis une toute petite infraction de la circulation vont être pourchassés par la police. Aux États-Unis, c'est un film très fort sur la répression policière, l'injustice faite et la ségrégation faite aux citoyens américains. Et c'est aussi un film très incarné et très intense sur une histoire d'amour.
Tous ces conseils, vous les trouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Eva Bétan, Michel Simon, Éric Neuhoff et Jean-Marc Lalanne pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sella, mais ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance Française, et je les remercie. Il y avait Marie Le Peintre, Nadège Antonini et Stéphane Touvenat pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 27 février. Venez nombreux au théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail dans le 6e à Paris pour deux émissions, l'une consacrée à la littérature et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on remettra avec vous en public le 30e prix des auditeurs du Masque et la Plume au meilleur film français et étranger, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.